Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 26 mois comme aujourd'hui, Powell avait pivoté. Ouais, pivoté. En gros, il est passé du méchant faucon qui veut monter les taux pour freiner l'inflation à la gentille colombe qui va peut-être baisser les taux pour soutenir l'économie. Depuis, le monde merveilleux de la finance a mis au point sa stratégie. On achète parce que la Fed, elle va baisser les taux. Au début de 2024, on attendait jusqu'à 12 baisses de taux, souvenez-vous. Ça s'est jamais produit. Mais peu importe, les marchés se sont toujours bien tenus et sont restés en mode bullish attitude en comptant sur le fait que la Fed allait baisser les taux. Ça, plus l'IA, bien sûr, et l'envolée des Mag 7. Finalement, si on réfléchit un peu, il n'y a pas eu tant de baisses de taux que ça depuis le pivot de la Fed. Mais le S&P 500, lui, il a quand même pris 67% depuis fin octobre 2023. Et puis, fast forward, nous voici en décembre 2025 à faire des incantations pour une nouvelle baisse des taux qui devrait nous permettre de continuer la hausse encore et encore. Parfois, vu sous cet angle, ça paraît un peu léger comme stratégie, mais force est de constater qu'entre les attentes que nous avions à la fin 2023 et ce qu'on a obtenu de la Fed depuis, le grand écart était plutôt massif, mais le résultat plutôt positif. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, demain et mercredi matin, on va se passer la pommade dans le dos et tergiverser dans tous les sens pour se répéter encore et encore le même mantra. La Fed, elle va baisser les taux. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Bienvenue dans un monde où l'on ne vit que par et pour le meeting de mercredi soir. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 8 décembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On va donc commencer par le seul truc dont on est absolument sûr, la Fed va baisser les taux mercredi. En théorie, je devrais faire gaffe et je devrais dire la Fed pourrait éventuellement peut-être baisser les taux. Mais quand les sondages affichent 86-87% de probabilité, on n'est plus dans le conditionnel, on est dans le fait divers annoncé. C'est comme si on avait déjà le communiqué de presse de la Fed, mais qu'on nous demandait de garder le silence jusqu'à mercredi soir. Du coup, le début de cette semaine va ressembler à un remake de ce qu'on sait déjà. On va ressasser tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu, pour s'auto-convaincre que la baisse est déjà actée. On va reparler de l'emploi qui se pète la gueule et qui devient donc logiquement la priorité numéro une de Monsieur Powell. On va aussi reparler bien sûr un tout petit peu de l'inflation, ce mystère permanent. Pas de CPI fiable depuis un bail, merci le shutdown, merci le BLS et un PCE de vendredi qui montre que les prix ne ralentissent pas tant que ça. Mais comme c'était plus ou moins dans les attentes ou moins pire que prévu, eh bien tout le monde trouve ça carrément formidable. Si on vulgarise un tout petit peu la chose, la vie va pas vous coûter moins cher, elle va juste augmenter un peu moins vite et votre niveau de vie, et lui, il va continuer à s'effriter lentement, mais sûrement par contre. Mais rassurez-vous, hein, Wall Street s'en fout complètement. L'essentiel, c'est que l'inflation n'ait pas l'air de repartir à la hausse comme un lendemain de confinement. À partir de là, tout le monde peut se concentrer sur l'emploi qui va mal et se persuader que la baisse des taux est acquise à 86-87%. Résultat, les trois premiers jours de la semaine vont servir à s'auto-hypnotiser avec ce fameux mantra officiel, l'emploi va mal, l'inflation n'est pas hors de contrôle, Powell peut donc baisser les taux. L'emploi va mal, l'inflation n'est pas hors de contrôle, Powell peut donc baisser les taux. L'emploi va mal, l'inflation n'est pas hors de contrôle, Powell peut donc baisser les taux. Et on va se répéter ça jusqu'à mercredi. Tout ça, c'est le joli scénario mis en place par Wall Street, mais de l'autre côté, on se rend quand même compte que l'économie est tenue par les plus riches qui dépensent comme des fous, pendant que la classe inférieure rame avec des crédits et des taux débiteurs d'usuriers, ainsi qu'un marché immobilier qui frise d'inaccessible pour le commun des mortels. C'est le mur qui sépare Wall Street et Main Street. L'économie ne va pas si bien que ça, mais pour Wall Street, ce qui compte, c'est qu'on baisse les taux pour que le S&P 500 casse enfin les 7000 points. Ce matin, le trader masqué me disait même
« La divergence entre les marchés financiers et la réelle économie est une des signatures que seuls certains traders arrivent à exploiter complètement. Jusqu'au jour où la réalité de ce qui se passe au-delà du fameux mur qui sépare Wall Street de Main Street s'écroule. Et c'est souvent trop tard. » Pour tout le monde.
Pour faire simple et moins philosophique, la bourse et l'économie réelle vivent souvent dans deux mondes différents. La bourse peut monter très fort, même quand l'économie va mal. Chômage, entreprises en difficulté, salaires sous pression, licenciements, etc., etc. Et cette déconnexion, certains traders très expérimentés savent l'exploiter. Ils comprennent que les marchés ne réagissent pas à la réalité du moment, mais à des anticipations, des narratifs, de la liquidité, bref, à un monde parallèle qu'on ne voit pas forcément. Tant que tout le monde joue le jeu, ça fonctionne. Et ça marche même très bien. Mais le jour où la vraie économie devient
devient trop mauvaise pour être ignorée, ce mur imaginaire entre Wall Street et Main Street, il s'effondre. Et là, les marchés rattrapent donc la réalité à toute vitesse, souvent trop tard pour les investisseurs traditionnels qui n'ont rien vu venir, et même souvent pour les traders qui profitaient de la situation. Quand la vraie correction qui n'est pas annoncée arrive, le retour de manivelle est extrêmement violent. Vendredi soir, le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en hausse et ont enchaîné 4 séances de hausse consécutives, ce qui nous mène à 2 semaines haussières de suite, mais des hausses homéopathiques. On a clairement été soulagé par les chiffres du PCA, qui étaient un peu moins pires et qui démontraient que l'inflation ne serait clairement pas le problème le plus discuté durant le FOMC meeting. Les indices avaient été emballés par l'annonce de vendredi dernier. Ils sont rapidement allés chercher les plus hauts de tous les temps avant de se dégonfler avant le week-end. Qu'il fallait retenir de la semaine dernière et de celle qui commence, c'est que le vrai moment de vérité arrive cette semaine. Enfin, mercredi soir vers 19h pour être précis. La réunion du 9 et 10 décembre, c'est la préoccupation du moment. Ce lundi, elle écrase clairement tout le reste et elle va continuer de nous occuper l'esprit jusqu'à jeudi soir. Jeudi soir parce que c'est le temps que le marché digère ce que Powell nous aura servi au menu de mercredi soir. Et au fond, tout se résume à une seule question. Record historique ou pas. Non, parce que au moment où je vous parle, le S&P 500 est à 0,15% de son sommet absolu avec la petite poussée des futurs de ce matin. On est quasiment au plus haut de tous les temps. C'est excitant, non? Bon, c'est vrai que cette année, on a déjà empilé plus de 30 records, donc l'exploit commence à ressembler à de la routine. Mais là, c'est différent. Si on claque encore un petit peu plus haut cette semaine, c'est que Powell reste de viche et que 2026 pourrait devenir l'année des baisses de taux en série. Bref, on se refait le fantasme de 2024. Et vu d'où on revient, ça relève presque du miracle. Rappelez-vous quand même qu'il y a un mois à peine, on était au fond du bac et on ne pouvait plus ouvrir un journal sans qu'on nous annonce le crash boursier garanti à 100%. Shutdown interminable, doute existentiel sur l'IA, débat sur la manière de comptabiliser les dépenses, volatilité en hausse et un greed and fear qui avait basculé du côté obscur de la force. Et aujourd'hui, rien. Plus un souvenir, on a l'amnésie sélective en marche. C'est le super pouvoir de Wall Street en moment. C'est le super pouvoir de Wall Street en ce moment, pouvoir tout oublier dès que ça monte. Mais soyons honnêtes, ce que le marché attend vraiment mercredi, c'est pas juste le « oui, on coupe les taux ». Ça, c'est déjà intégré. Les 0,25, c'est fait, c'est pricé, c'est digéré. Non, ce que Wall Street veut, c'est le récit narratif de 2026. L'explication de ce qui va se passer l'année prochaine. La feuille de route, la vision de la Fed. Et pour les plus optimistes, ceux qui croient encore au Père Noël, le vrai fantasme, ce serait que Powell annonce carrément le début d'un QE masqué. Pas un QE officiel, hein, juste un petit renversement de vapeur, un truc discret pour dire « Bon, le QT est fini si on mettait un peu d'essence dans le réservoir. » Certaines banques y croient déjà dur comme fer. Bank of America parle même de 45 milliards d'injections monétaires dès janvier pendant au moins 6 mois. Si ça, ça arrive, on sera plus à Wall Street. On sera à Wall Street au pays des merveilles. Mais je vais vous dire, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, non seulement on a bien raison de penser ce qu'on pense, mais en plus, ça ne m'étonnerait même plus que Powell en remette une couche pour faire plaisir à Wall Street et au bon président Trump. En tous les cas, si la Fed nous sort un truc pareil, ce dont je doute fortement, vu qu'il y a encore 2 semaines, on parlait carrément d'une pause dans la baisse des taux, ce serait pour le marché l'équivalent d'une injection d'adrénaline en intraveineuse, et je ne voudrais pas être là quand l'agence antidopage viendra demander un échantillon de sang pour faire des tests. Ça serait aussi la confirmation officielle que la Fed est toujours notre meilleur ami, et peut-être même que le Bitcoin arrêterait de déprimer le week-end en liquidant tous les traders en levier. Mais bon, on peut toujours fantasmer. Une baisse des taux, oui, un QE déguisé dès ce mercredi, faut quand même pas pousser. Je vois beaucoup plus ce genre d'annonce arriver en mai quand le nouveau poulain de Trump prendra la tête de la Fed et voudra montrer qu'il a la main lourde sur le robinet des liquidités et qu'il veut booster l'économie. Pour l'heure, si on prend un peu de recul, on voit toujours les deux mêmes camps qui s'affrontent à la Fed. Le camp du « on coupe », le marché du travail se dégrade, l'inflation va retomber derrière, donc on baisse avant la récession. Et le camp des faucons paranoïaques, l'inflation est encore à 3%, tant qu'elle est là, on ne lâche rien. Les faucons n'ont visiblement pas assez de poids pour bloquer la décision cette fois encore, mais c'est pas pour autant qu'ils racontent n'importe quoi. L'inflation reste un vrai problème, même si tout le monde préfère l'ignorer parce que ça casse un petit peu l'ambiance. Et surtout, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est le facteur majeur, la pression politique. Powell s'en va en baie, mais les autres membres du FOMC vont rester. Et si tu évitais que ta vie devienne un enfer sous Trump, eh bien, tu tends un minimum l'oreille en direction de la Maison Blanche. Bref. Mercredi, la Fed coupera les taux. D'ici là, on va remplir le vide comme on peut, brasser de l'air, commenter des micro-mouvements inutiles et se raconter des histoires pour passer le temps. On va dire tout et son contraire, en espérant que quelque part, il y ait un petit bout de vérité qui traîne. Mais au final, ça restera quand même clairement pile ou face. La seule indication à peu près tangible qu'on a aujourd'hui, c'est que les options price déjà plus 1,3% sur le S&P 500 dès mercredi soir. Ça ne veut strictement rien dire, sauf que le marché est dans un optimisme béat en attendant la décision de la Fed. En Asie, même ambiance. On attend aussi, comme tout le monde, le PIB japonais a été révisé à la baisse ce matin, mais ça ne devrait pas empêcher la BOJ d'envisager une hausse des taux ce mois-ci. Le Bitcoin, lui, a encore fait son manège du week-end, sous les 88 000 $ avant de remonter comme une balle. Je plains déjà les deux ou trois amateurs de levier qui ont dû commencer leur lundi matin en PLS au fond du lit. Et côté chiffres, on notera que le pétrole a repassé les 60 en montant, l'or est à 4 237, le Bitcoin est remonté à 91 100 $, le 10 ans américain est à 4,14, ça repart à la hausse, et le 10 ans japonais est à 1,9610. Et je vous avoue que voir le Japon frôler les 2%, ça me met presque en joie. Et puis, aussi fou que ça puisse paraître, il y a d'autres choses qui se passent, mis à part la Fed. Netflix a annoncé son intention de racheter Warner Bros, Discovery et HBO Max pour la modique somme de 72 milliards. Ça, c'était vendredi dernier, mais le deal est tellement gigantesque que ça a occupé le week-end de tout le monde. Les actionnaires de Netflix sont pas spécialement fans du scénario. C'est cher, ça rajoute une montagne de dettes et ça pourrait même coûter un downgrade du rating. Et pour couronner le tout, Trump a déclaré qu'il allait regarder ça de près, ce qui est rarement bon signe. Et bien sûr, on parle déjà de position dominante, d'antitrust, bref, l'aventure commence super bien. Deuxième épisode, deuxième chose qu'on regarde ce matin, les tensions explosives entre la Chine et le Japon. Oui, c'est loin, mais faut quand même qu'on en parle. Le week-end a été très animé autour d'Okinawa. Tokyo accuse des chasseurs chinois d'avoir braqué leur radar sur des avions japonais, un geste considéré comme une menace directe. Pékin nie tout, évidemment. Le Japon parle d'actes dangereux, dépose plainte officielle et promet une réponse résolue mais calme. La Chine réplique en affirmant que ce sont les Japonais qui ont harcelé ses forces pendant des exercices près du détroit de Miyako. Tout ça dans un climat où Taïwan reste au cœur des tensions. On n'avait pas vu un incident aussi sérieux depuis des années. Tokyo rappelle même qu'une attaque chinoise sur Taïwan pourrait entraîner une réaction militaire japonaise. Et pendant ce temps-là, Trump reste silencieux. Pékin a envoyé un message très clair. Plus d'une centaine de navires déployés dans la zone histoire d'appuyer son propos. Taïwan, elle regarde tout ça en serrant les dents et dénonce une stratégie d'intimidation et de guerre psychologique. La mer de Chine orientale redevient donc un plateau de jeu hautement inflammable où chaque blip de radar peut faire basculer l'équilibre. On n'avait vraiment pas besoin de ça pour se compliquer la semaine, mais au moins, ça détourne un tout petit peu l'attention de la Fed. Voilà où on en est, une salle d'attente gigantesque avec une musique lancinante de trois notes qui tourne en boucle où tout le monde compte les heures avant mercredi soir, comme si Powell allait changer nos vies. On peut analyser, spéculer, psychoter, mais au final, tout se jouera en 10 secondes au détour d'une phrase lors de la conférence de presse. Alors oui, on fait semblant de parler du Japon, de Netflix, de la Chine, du Bitcoin, mais soyons honnêtes, le seul personnage principal de cette semaine, c'est Jérôme Powell, et tout le reste, c'est du pipeau. Mercredi soir, 19h, soit on passe les 7000, soit on se prend une claque. Entre temps, on reprend ce vieux magazine qui traîne sur la table de la salle d'attente et on fait semblant de s'intéresser au dernier régime de l'été 2021 qui est censé changer notre silhouette en 3 jours. Mais en fait, on sait que la fin de l'année se joue dans les couloirs de Washington et mercredi soir, on saura. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et moi, je vous retrouve demain pour vous raconter plus ou moins la même chose, mais différemment. Allez, bonne journée. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.